Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces dons cachés? Ben justement, on va le voir. J'ai été étonnée dans ce qui a été lu tout à l'heure, ce qui avait été demandé par Hélène, l'importance du mot bien disposé. Et effectivement, tout ce qui est don et tout ce qui est ministère exercé dans l'Église, c'est indispensable que ce soit dans un esprit, fait dans un esprit bien disposé. Sinon, c'est vraiment dur. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que Jésus a fait. Alors, à l'origine, en fait, j'étais confirmée quand on a fait l'étude biblique de l'AD. Alors, moi aussi, je vais m'y mettre. Hein. Et je vais juste vous lire un petit extrait qui m'a vraiment frappée. Parce que, pour moi, c'est tout à fait ça. C'est page 552, pour ceux qui suivent l'étude biblique de l'AD. 552. Et ça m'a frappée parce que ça correspond vraiment à ce qu'on a besoin de retenir. Et c'est rare qu'on parle de ces petits dons, dits petits en tout cas. Dans les églises pauliniennes, l'exercice des dons spirituels ou charismata est un facteur important de la forme visible de l'église. Alors il fait un tableau des différents dons, donc il y en a beaucoup, hein, apôtres, prophètes, discernement des esprits, enseignement, parole de sagesse, évangéliste, exhortation, foi, miracle, guérison, parler en langue, interprétation, service, direction, et puis encore présidence, assistance, miséricorde, libéralité, ça fait quand même beaucoup. Et je passe un petit peu, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui m'a frappé, c'est ce paragraphe. Le charisma, cette grâce, est accordé à chacun. Et ce n'est pas tant le don surnaturel que l'appel de l'Esprit à servir l'Église. Si bien que lorsque Paul énumère les charismata, donc ces dons, il cite aussi bien des ministères que des modes d'action. Et ça, j'avais à cœur de le retenir parce qu'on pense toujours ministère. C'est pour ça, moi, je les ai appelés ministères cachés. Ce sont ces modes d'action. Il n'y a pas que les choses surnaturelles. Il y a aussi les modes d'action. Il est évident qu'à part la priorité des apôtres et des prophètes, évidemment, puisqu'ils étaient au fondement de l'Église, Paul n'établit aucune hiérarchie dans l'importance des dons. Alors, il dit bien hiérarchie, parce que c'est vrai que parfois, Paul nous exhorte à rechercher les dons les meilleurs, etc., particulièrement la prophétie, etc. Mais là, il parle de hiérarchie dans l'importance des dons. Les apôtres et les prophètes ont la première place parce qu'ils sont les véhicules de la révélation, etc. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est important parce que c'est vrai que malheureusement, on est humain et on a toujours tendance à considérer les dons les plus spectaculaires, les plus surnaturels, comme les plus importants. Et puis, les dons, les modes d'action de la vie courante comme des détails. Et ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'on appelle les dons surnaturels charismatiques... C'est ceux qui ne sont pas sous notre contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'on, plus ou moins, on n'y est pour rien, si ce n'est que d'obéir à Dieu. Prophétie, miracle, guérison. Si vous priez pour quelqu'un et que la personne est guérie, franchement, vous n'y êtes pour rien. Nous n'y sommes pour rien. Si elle n'est pas guérie, on n'y est pour rien non plus. Je veux dire, c'est vraiment l'intervention de Dieu. Donc, il n'y a absolument pas à s'enorgueillir. Moi, chaque fois que je prie pour les malades sont guéris. So what? Dieu est puissant et il guérit tous les malades. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai quoi que ce soit. Et si j'ai un don de guérison, c'est pareil. C'est un don et je n'ai pas à me vanter d'un don. Si aujourd'hui, je vous donne un petit paquet de diamants, c'est un don. Vous n'avez pas de mérite particulier. Et donc, il ne faut pas oublier, faut jamais oublier ça quand on a affaire à des gens qui font d'authentiques miracles, d'authentiques guérisons. Il n'y a pas à s'en vanter. Qu'est-ce qu'on peut y faire, honnêtement? Quand vous êtes en face d'un malade qui a le cancer... Vous vous sentez tellement, tellement démuni. Et si jamais il guérit après votre prière, ben vous êtes toujours aussi démuni. Hein. C'est Dieu qui agit. Il ne faut jamais oublier ça. Et jamais placer ces ministères-là au-dessus des autres. D'autant plus que la Bible est claire quand elle dit « Mais j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai chassé des démons. » Et Jésus répond « Je ne vous connais pas. » Donc attention. Faire attention de ne pas placer ces dons charismatiques au-dessus des autres. Alors, la deuxième chose, ce sont les talents naturels. Et cela, souvent, on ne va pas les loger avec les charismata, avec les dons. Et pourtant, il a fait un tableau très très bien, vous regarderez page 552, on voit qu'ils apparaissent très souvent et qu'ils existent, ils sont là. Et ce sont aussi des grâces de Dieu. et ils sont utilisés par le Saint-Esprit. Ça, faut pas l'oublier. On est utilisé par le Saint-Esprit si on prie pour un malade qui guérit. Et on est utilisé par le Saint-Esprit si on accomplit des tâches matérielles ou autres, et ça, on va en parler plus loin. Service, présidence, assistance, miséricorde, libéralité, etc. Et le verset sur lequel j'ai travaillé pour ce message, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7. Chacun reçoit. Il dit chacun. Il dit pas une élite ou les gens bien ou les meilleurs chrétiens. Chacun. Chacun reçoit le don de manifester l'esprit pour son plaisir ? Non. En vue du bien de tous. Et David Alonso nous a parlé du bien commun, ben c'est le moment ou jamais. En vue du bien de tous. Donc, pas en vue de glorifier un homme, un extra super évangéliste ou pasteur. Non, non. Chacun. Chacun, ça veut dire chacun. Reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Alors, chacun, c'est important de se rappeler, on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire qu'il faut, et alors on le dit avec notre tête, avec notre bouche, bon, mais il faut prier pour qu'on le réalise vraiment. Prions parce que ce n'est pas évident, parce qu'on est comme tout le monde, on a un boulot, on a notre logement, on est comme tout le monde. Et se dire, mais je suis ambassadeur d'un autre royaume, ça veut dire que je suis ambassadeur d'autres valeurs, d'autres façons de voir que celles qui m'entourent. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais me laisser influencer par ce qui m'entoure ? Ou est-ce que moi, je vais présenter, il ne s'agit pas de faire de la politique et d'obliger les gens, mais présenter une autre façon de voir la vie. Imaginez les ambassadeurs des différents pays qui sont là en France, s'ils commençaient à tout faire comme les Français, ben leur président les rappellerait en disant « Oh, oh !» Vous savez bien, vous savez d'où vous venez quand même, vous savez qui vous représentez. Arrêtez de vous mêler des gilets jaunes ou de vous mêler de choses comme ça. Non. Attention, vous êtes nos ambassadeurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Et je pense qu'il faut prier, parce que ce n'est pas facile dans notre cœur, peut-être dans notre tête ça va, de se dire je suis l'ambassadeur d'un autre royaume. Et à ce royaume, on doit la loyauté, l'obéissance, la fidélité. Ce n'est pas facile d'être loyal à un autre roi, à un autre royaume. Et les ambassadeurs en France, ils rigolent pas toujours quand il y a des pépins, quand il y a des difficultés, parce que eux, il faut qu'ils restent loyaux à leur pays, tout en vivant dans le nôtre. Et vous voyez parfois dans les journaux, il y a des couacs. Je crois qu'il y en a eu un avec l'ambassadeur aux États-Unis, l'ambassadeur français aux États-Unis. Et il y a des couacs de temps en temps, parce que c'est dur de représenter un autre royaume dans un autre pays. Alors, on est tous appelés à servir le Seigneur. Et il y a un verset, moi, qui me tourne souvent dans la tête. Jésus a dit, « Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. » Aïe, il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas de terrain au milieu, il n'y a pas de gris. « Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. » Il n'y a pas de neutralité. Il y aura quand même des Suisses qui seront sauvés. Hein. Mais il n'y a pas de neutralité. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de neutralité. Ou j'assemble avec Dieu, ou je disperse. Quelquefois, on dit, mais ce n'est pas juste. Mais si moi, je ne bouge pas, puis je fais de mal à personne. Hein ? Il n'y a pas d'autre solution. Ou dans toute ma vie, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, parce que ça aussi, ça compte, ça assemble avec Dieu, avec Jésus, ou ça disperse. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Ça, c'est délicat, hein, mais c'est quand même la vérité. Il n'y a pas de terrain neutre. Ensuite, cet appel de Dieu, donc qu'on vient de dire, ambassadeur, etc., ça va se concrétiser. Ce n'est pas seulement sur le papier ou dans la Bible, tous ambassadeurs de Christ. C'est un appel qui va se concrétiser dans notre vie de famille d'abord, dans notre vie d'église et dans la société. Alors, si on commence par la vie civile, on va se dire, oh oui, mais on est toujours dans le contexte hein, des ministères cachés. On va dire, oui, mais dans la vie civile, il y a des gens qui exercent des ministères faciles, entre guillemets. Hein. C'est les gens bien en vue. Alors, ceux qui ont des responsabilités humaines importantes, hein, les médecins, les infirmières, les profs, certains patrons, les pompiers, des gens qui sont au service de la personne. Oh, ben, c'est facile pour eux. Hein. Ils sont déjà au service, hein, ils ont un ministère rudement visible. D'ailleurs, c'est curieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je me fais souvent cette réflexion. Dans notre société actuelle, qui sont les gens les plus agressés et qui souffrent le plus ? Les médecins, les pompiers, la police, les services sociaux, les infirmières, les hôpitaux, enfin tous les services à la personne. C'est inquiétant. On sent qu'il y a une force qui cherche à nuire, qui cherche à nuire à ces gens-là, parce qu'ils soulagent les autres. Qu'ils soient chrétiens ou non, ils soulagent les autres. Ils protègent. Hein, maintenant, quand vous voyez que certains médecins se font agresser, on leur tend des pièges, quel est l'intérêt, franchement. Mais voilà, il y a une force vraiment qui s'oppose. Lisez un tout petit peu les journaux ou les nouvelles sur vos ordinateurs. C'est frappant que ces gens-là sont, comme on dirait, au centre d'une attaque permanente. Ceux qui servent les autres. On laisse les banquiers tranquilles, on laisse des tas d'autres gens. Je les respecte, mais je veux dire, c'est curieux que la cible, ce soit ceux qui sont au service des autres. Donc dans la vie civile, il y a des ministères visibles, des gens qui sont au service, on se dit c'est facile. Pour les jeunes, il y a les délégués de classe. C'est aussi des postes où on les voit, on sait qui c'est. Les conseillers municipaux, tous ces services qu'on rend à la société, ils sont visibles. On dit, ah ben oui, mais pour eux c'est facile, c'est facile. Dans la vie d'église, c'est pareil. On pense les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, les conducteurs de louanges. C'est des choses qui se voient, c'est des ministères visibles. Et on est humain, on pense à ce qui est en vue. Hein, la Bible dit, c'est Dieu qui dit ça au prophète Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous avez vu l'esprit bien disposé, comment ça revenait ce matin dans tous les versets. Alors, qu'est-ce qu'il en est des autres ? Ceux qui n'ont pas ces ministères visibles, de tous ceux qui ne sont pas du tout en vue, est-ce qu'ils peuvent exercer leurs dons dans la vie civile ? Ou non, eux, ils n'ont pas besoin, puisqu'ils ne sont ni pompiers, ni médecins, ni... voilà. Et est-ce qu'ils ont une importance ? Alors, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans la vie civile, c'est vrai dans la vie de famille aussi. On parlera tout à l'heure de Gédéon qui disait « Je suis le plus petit dans ma famille !» Et on peut se poser la question, mais après tout, moi, est-ce que mes dons ont une importance ? Est-ce que je peux les utiliser ? Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Voilà. Et je suis désolée de citer un exemple familial, mais il se trouve que c'est ceux que je connais le mieux. Et mes parents n'étaient absolument pas parfaits, vous ne faites pas d'illusions. Mais mon père disait souvent « Moi, je suis un petit chrétien. » Et ça me faisait un peu rire. Ça n'avait pas l'air de le déranger du tout. Mais il considérait quelque part qu'il ne pouvait rien faire d'important pour le Seigneur. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Et il était typographe, donc il travaillait de nuit au journal Paris-Normandie à Rouen. Donc impossible pour lui d'aller aux réunions de prière, aux réunions de frères qui avaient lieu le soir. C'était une grande église, donc il y avait pas mal de réunions. Même pas les réunions spéciales, vous savez, quand sur un week-end, il y avait des gens qui passaient. Et puis, le 31 décembre, non, ils travaillaient. Donc, vous savez, dans les églises des assemblées de Dieu, on avait une longue veille, c'est-à-dire de 9h jusqu'à minuit et demi, on avait deux ou trois prédications, des chorales, etc. Moi, j'aimais beaucoup. Ils ne pouvaient même pas nous accompagner, on était obligés de prendre deux bus pour aller à l'église et rentrer comme on pouvait. C'était un peu moche, quoi. Les réunions du soir, ils ne pouvaient pas y aller. Même le dimanche 5h30, c'était une super réunion, mais ils ne pouvaient pas, puisqu'ils devaient quitter la maison à 6h30. Donc c'était pas possible. Alors bon, ils pensaient qu'il était un petit chrétien. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais sans s'en rendre compte, je crois qu'il a très bien résolu le problème. Et il a en fait donné à Dieu le peu qu'il avait. Il ne pouvait pas donner ce qu'il ne pouvait pas donner, mais il a donné le peu qu'il avait. Ses 5 pains et ses 2 poissons, vous savez. Je pense que papa était comme ça. Il se trouve qu'il était libre l'après-midi puisqu'il travaillait de nuit. C'est un peu triste à dire, mais c'était un des rares qui était à tous les enterrements de l'église. C'était une grande église, il y en avait quand même assez souvent. Et le pasteur, au moins, il n'était pas tout seul pour chanter les chants, parce que parfois, il n'y avait pratiquement pas de membres de la famille qui étaient chrétiens, et il était là, il était présent. Et c'était important. Vous savez, la présence, c'est déjà quelque chose de bien pour le Seigneur, il ne faut pas l'oublier. C'est Jack Efford qui nous avait fait remarquer ça, mais il a raison. Il avait l'après-midi libre, donc il pouvait faire des visites à l'hôpital. quand il y avait des chrétiens qui étaient malades, il y allait. Et il allait faire des visites aux chrétiens qui étaient en maison de retraite. Et puis, il transportait les gens, à la seule réunion de l'après-midi où il pouvait aller, le jeudi, dans notre vieille de chevaux. Elle roulait, c'était tout ce qu'on pouvait en dire. Et les gens les plus pauvres, les plus âgés, qui ne pouvaient pas se déplacer, il allait les chercher, il les emmenait à l'église, il les ramenait. Et moi, quand j'étais petite, j'avais tendance à croire ce qu'il disait, que c'était un petit chrétien. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas un petit chrétien, mais c'était vraiment un ambassadeur de Christ. Même dans son travail, quand il est devenu chrétien, c'était vraiment des joyeux lurons à Paris-Normandie. Et mon père était très plaisantin, il savait faire des bonnes blagues. Je vous raconterai ça plus tard, c'est très très drôle. Et il me racontait ça le midi, on s'amusait bien. Mais il avait une règle d'or, pas de blagues déplacées. Et ses copains le savaient. Du jour où il a été chrétien, toutes les bonnes plaisanteries de qualité, ça le faisait mourir de rire, il en faisait et il en recevait et il s'amusait bien, il nous les racontait le midi. Mais c'était exclu pour les plaisanteries de mauvaise qualité, les plaisanteries sous la ceinture. Les copains le savaient, c'était un témoignage, tout simple. Et je l'ai vu surtout qu'il n'était pas un petit chrétien dans les conflits de notre église. Quand j'ai eu entre 10 et 12 ans, l'église s'est complètement déchirée, donc c'est une église de 600 à 700 personnes, plus les annexes, et elle s'est un peu déchirée. Et j'ai été admirative, j'étais suffisamment grande pour voir, pour comprendre ce que faisait mon père. Et d'autant plus qu'un jour, les deux parties se sont trouvées chez nous à la même heure. Et j'ai pu admirer sa façon de gérer. Il était très crispé parce qu'il ne voulait surtout pas déplaire au Seigneur, mais il ne voulait pas blesser non plus. Et j'ai vu qu'il savait être un homme de vérité et de paix. Il reconnaissait les fautes d'un côté et de l'autre. Mais il prêchait le pardon, la réconciliation et la paix. Je l'ai vu faire. Je l'ai vu nous expliquer à nous à la maison. Oui, le pasteur a tort dans tel et tel domaine. Oui, ses opposants, ils ont tort dans tel et tel domaine. Mais ce que le Seigneur veut, c'est la paix. Et on va travailler à cette paix. Il se trouve que le pasteur, c'était l'arrière-grand-père de Jean-Baptiste. Et j'ai admiré sa sagesse. Il n'était pas aveugle, il ne jouait pas à l'autruche. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais en reconnaissant les fautes et les failles des uns des autres, il a été un modèle pour moi, parce qu'il les respectait. Et quand on pouvait rencontrer ce pasteur, il est parti après, donc le grand-père, l'arrière-grand-père de Jean-Baptiste est parti après sur Biarritz, je crois, et tout. Après, on l'a revu. Et du coup, il n'y a pas dans mon cœur non plus de rancœur ni quoi que ce soit, parce que mon père a planté dans nos vies ce respect et cette paix, tout en reconnaissant les failles des autres. Et j'étais trop contente de faire la préparation au baptême de son arrière-petit-fils, parce que, pas baptême, au mariage, parce que ça me rappelait des bonnes choses, parce que mon père avait su gérer cette situation avec une énorme sagesse, mais c'était qu'un petit chrétien, bien sûr. Et une autre chose que j'ai admirée chez lui, vous voyez, c'est pas des grands dons qui font des étincelles, mais c'était son respect des autres. Peu importait leur origine, leur couleur, leur statut social, leur éducation ou leur instruction. Pourtant, papa aimait beaucoup les gens instruits, mais il avait la même attitude avec tous, devant eux et derrière eux. Et je me souviens me promener avec papa et on rencontrait le jardinier de la commune qui était un immigré extrêmement gentil. Vous savez, ces vieux messieurs algériens qui étaient extrêmement serviables et... Moi, j'avais un petit peu peur, parce que c'était des gens différents quand j'étais petite. Et il m'avait expliqué, mais non, mais ce sont des gens qui travaillent, sont courageux, etc. Et quelques minutes après, on avait rencontré le maire, qui était aussi sénateur, qui était un grand monsieur. Et il se tutoyait parce qu'il se connaissait depuis l'enfance. Et j'étais là. Il traitait exactement les deux personnes avec autant de respect. Et ça m'a marquée. Parce que pour moi, ça, ce sont des dons cachés peut-être, mais qui sont extrêmement importants quand on est ambassadeur de Christ. La même attitude. Et derrière, quand il parlait de ces gens, derrière leur dos, il avait le même respect. Devant et derrière. Pas de duplicité, pas de jugement. Tout en n'étant pas aveugle sur les faiblesses ou les limites des gens. Et ça, c'est fantastique. Il a été un exemple extraordinaire. En effet, il ne pouvait pas faire des grandes choses visibles, son emploi du temps ne lui permettait pas, mais ce qu'il pouvait, c'est être. et transmettre. Son obéissance à Dieu, là ce serait trop long de donner des exemples, je ne veux pas faire non plus l'apologie de mon père, son amour pour la création, son dévouement pour ses petits-enfants, sa générosité, et ça j'ai apprécié aussi, quand il s'agissait de servir le Seigneur. Il m'a payé des camps et des colos où on payait son séjour pour servir le Seigneur en Angleterre, où j'ai appris l'évangélisation des enfants, etc. Alors que le budget de mes parents était au centime près. Donc, cette générosité, Dieu l'a bénie, l'a récompensée, pour qu'on puisse servir le Seigneur. Et puis après, de générosité de son temps de retraite, quand on a démarré l'église avec André, où il s'occupait des enfants, pour qu'on soit libre pour servir le Seigneur. Petit chrétien, voyez que la grandeur, ce n'est pas forcément dans les choses visibles. Et Dieu le voit. Oh, peut-être les gens ne l'ont pas vu. Certains l'ont vu, je pense. Mais Dieu le voyait. Dieu le voit. Donc attention à ce qui frappe les yeux. Ce n'est pas forcément le plus important. Ma mère, de son côté, témoignait, priait, encourageait. C'était vraiment son ministère. Et elle ne se contentait pas de bonnes paroles sympathiques. Vous savez, parfois, on encourage les gens. Mais oui, tu vas y arriver, pas de souci. Elle avait des paroles inspirées de la parole de Dieu. Des paroles vraiment qui touchaient le cœur. Et comme je vous ai dit, de temps en temps, elle ouvrait son buffet et elle mettait sa tête dedans. Je passais son lieu de prière et elle se mettait sur ces vieux buffets normands. Là, il est chez Florence, vous pouvez le voir, c'est un monument. Et elle priait là. Je la voyais souvent dans son buffet prier. C'était son petit coin de prière. Du coup, elle avait cette communion avec Dieu qui lui permettait d'avoir des paroles de discernement et des paroles parfois prophétiques, sans jamais prononcer le mot prophétique d'ailleurs. Elle le faisait naturellement. Elle en était même peut-être pas consciente, je crois. Un autre exemple dans ma vie, et c'est ma sœur, elle a beaucoup de défauts, ma sœur, on est complètement opposés, tout ce qu'elle aime, j'aime pas, tout ce que j'aime, elle aime pas. Voilà, je pourrais vous faire une longue liste de ses défauts, puisque forcément, elle pense pas comme moi. Mais est-ce que c'est l'hérédité? Un jour, elle me dit, moi je fais rien de spécial pour Dieu. Bon. Et ce soir-là, c'était une soirée de longue veille à l'église, et j'étais assise à côté d'elle. C'est vrai qu'elle n'était pas à la chorale, elle n'était pas monitrice école du dimanche, elle ne faisait rien de spécial donc pour elle. Et notre pasteur a prêché sur les ministères cachés. C'est pour ça que j'ai repris ces mots, les ministères cachés. Et je peux vous dire que je lui ai envoyé des bons coups de coude pendant toute la prédication. J'ai gardé le coup de tête, mais à l'époque, il y avait aussi les coups de coude. Elle a en effet l'art... Et là, je vous cite ce cas, non pas parce que c'est ma sœur, mais parce qu'il y a des dons incroyables avec Dieu. Elle a un don particulier, c'est l'art de la rencontre incroyable, juste au bon moment. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce don, le don de la rencontre incroyable au bon moment. Et c'est ahurissant, je compte plus le nombre de gens qu'elle a rencontrés dans le train, dans le métro, à un arrêt de bus, dans la rue, au travail, sur la place du village à 8h du soir. Et Dieu va lui donner pour ces gens-là des paroles inspirées, du discernement et des encouragements. Je ne vous dirai pas le nombre de suicides qu'elle a évités. Des gens qui, après la conversation, lui disaient dans le train, « J'avais prévu de me jeter sous le train. Heureusement que vous m'avez parlé. » Je ne le compte plus parce qu'il y en a eu énormément. Le fait, elle prenait le train toutes les semaines, il faut que je vous précise quand même, pour aller de Rouen à Saint-Lô où elle travaillait. Elle a amené des tas de gens au salut. Et la dernière en date qui m'a beaucoup frappée, c'est une femme qui, bon, je ne peux pas raconter son histoire, c'est vraiment triste, et je l'ai raconté aux jeunes et je sais que ça leur fait très peur, qui a vécu une tragédie et qui a quitté le Seigneur. Et pendant des années, elle a prié pour cette fille, et chaque fois qu'elle la rencontrait, et puis un jour elle a dit, maintenant c'est fini. Catherine, tu viens avec moi à l'église cet après-midi. Tu ne peux pas rester comme ça, ça suffit, ça fait des années. Et la Catherine en question est revenue. Et ce jour-là, le pasteur a prêché. On aurait cru qu'il connaissait toute la vie. Il ne connaissait pas la Catherine, il ne l'avait jamais vue. Et il a pratiquement raconté sa vie. Évidemment, elle a pleuré. Elle a vu que Dieu pensait encore à elle. Et bon, maintenant, c'est une excellente chanteuse. Elle a une très très belle voix. Et récemment, bien sûr, elle est revenue au Seigneur, etc. Et puis très récemment, elle a chanté dans l'église. Et elle a ajouté quelque chose qui est assez rare. Elle a dit, je ne serai pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Yolande. Yolande, c'est donc ma sœur. Vous voyez, on peut faire des choses, mais alors qui est au courant de ça? Elle me l'a raconté à moi, mais il n'y a pas grand monde qui le sait. Consoler, reprendre avec humour, parce que ça, elle sait l'avoir avec les autres, moins avec moi, pour protéger, pour aider. Préparer, alors là, un autre don. Alors je lui ai toujours dit, écoute, moi, quand je serai à l'hôpital, ne viens pas me voir, s'il te plaît. Parce qu'elle a un don aussi, qui est de préparer les gens pour l'éternité. Le nombre de gens qu'elle est allée voir à l'hôpital, le matin ou l'après-midi, avant qu'ils décèdent. Bon, parce qu'elle prie avec eux. Elle passe du temps. Et mon oncle et ma tante, qui n'avaient jamais été intéressés par l'évangile, elle est allée les voir. Ils étaient en train de finir leur vie d'un cancer, l'un comme l'autre, à quelques années d'écart. Elle a prié avec eux. Ils ont demandé pardon à Dieu pour leur péché. Et ils sont partis dans l'éternité avec Jésus. Comment elle a pu faire ça? Vous ne connaissez pas mon oncle et ma tante, ils étaient très froids. Très. C'était des commerçants. Très. Et elle n'a pas eu de problème. Elle vous raconte ça comme si ça s'était passé tout à fait naturellement. Ceci étant, elle n'a jamais rien fait pour le Seigneur. C'est un ministère très particulier. Très particulier et très peu visible. Vous savez, accompagner des gens juste avant qu'ils meurent, ça ne se voit pas beaucoup. Hein. Mais à l'échelle du royaume de Dieu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense qu'il y a aussi des tas de dons cachés dans notre Église. Je ne vous raconte pas ça pour vous dire « Oh, elle avait de la chance, elle avait une super famille. » C'est vrai que Dieu m'a bénie, mais ils ont des défauts, croyez-moi. Avec ma sœur, on se chipote assez comme ça. Presque plus qu'avec André. Mais ces dons cachés, ils sont aussi dans l'Église. J'en suis sûre. Le peu que j'entends, le peu que je vois, je sais qu'il y a des dons cachés extrêmement précieux dans notre Église. Et ce que je voulais vous dire ce matin, je pense que je continuerai la semaine prochaine parce qu'on va aller plus loin dans les détails, c'est que ce sont ces ministères cachés, exercés avec une grande humilité, qui font circuler le sang dans le corps de Christ. Alors c'est une image, ne la donnez pas trop aux autres, je ne sais pas si elle est très bonne, peut-être un médecin me contredirait, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est qu'une image. Vous savez, les globules rouges, je crois que c'est eux qui amènent l'oxygène. Et puis les globules blancs, ils luttent contre les virus. Samuel nous a passé une magnifique vidéo. Hein. On voit le globule blanc qui mange un virus, c'est génial. Il y a un petit bruitage en plus. Il avait eu ça à son école à Grenoble, mais c'est génial. Et sans ces mystères cachés, l'église locale, comment elle serait? Eh bien, elle serait sans vie. Elle serait froide et lugubre. Enlevez tous les ministères cachés qui se manifestent dans notre église ici à Aubergenville. Et vous verrez. L'église, ça sera une église glaciale. Alors vous me direz, oh non, il ne faut pas exagérer. Un, même si l'équipe pastorale était bonne et dynamique et tout, s'il n'y a pas ces ministères cachés dans l'église, vous verrez, c'est horrible. Alors pourquoi je peux dire ça avec assurance? Je vais vous donner un exemple tout proche. Là aussi, pardonnez-moi. Je dis sans jugement, mais c'est quelque chose qu'on a observé. L'église réformée de Mantes, je sais que je priais souvent, moi, avec la femme du pasteur précédent, pour que cette église vive. Elle venait à la maison et on priait ensemble. Donc, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre l'église réformée, au contraire. Et un jour, en passant dans la rue, j'ai vu qu'il y avait un nouveau pasteur et la femme était en train d'astiquer la barrière. Et je parlais avec eux, j'ai dit « Ah, mais c'est une réponse à la prière, on est content que vous soyez là et tout. » Et elle a reçu, alors je ne sais plus si c'est 96-97, un nouveau pasteur, super évangéliste, dynamique et extrêmement diplomate. Il était anglais, ça s'explique, vous savez, les anglais. Bon. Vraiment un pasteur super. Et en quelques années, l'église a grandi et on s'est réjoui. Parce que ce qu'on veut, c'est que toutes les églises de la région soient à la gloire de Dieu. Hein. On ne vit pas pour notre épicerie. Et en quelques années, l'église a grandi, les anciens membres sont revenus, plusieurs personnes même ont quitté leur église pour les rejoindre. Pourquoi pas? Puis il a pris un poste sur Paris. Et l'église s'est vidée. Un nouveau pasteur est arrivé qui n'avait pas du tout le même tempérament, ni les mêmes dons. Et il est resté qu'une poignée de gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux me tromper, mais mon interprétation, c'est que les dons cachés n'étaient pas là. Les gens venaient parce que le pasteur était génial. Ils aimaient bien sa compagnie, ses messages, ils aimaient bien sa façon d'être. Mais quand il est parti, il n'y avait pas de dons cachés qui faisaient vivre l'Église. Ces gens qui apportent l'oxygène, l'encouragement, l'aide, la bénédiction, la prière, le soutien, ils venaient pour recevoir, de cet homme, qui est un homme de Dieu. D'ailleurs, maintenant, il a une église en Angleterre. Je crois que Julie y est allée. Andy Buckler. Non, tu n'es pas allée. On m'a dit qu'il avait une super... C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que ça marche très, très bien. Pas de souci. C'est un homme de Dieu. Mais les gens qui venaient ne faisaient pas circuler le sang. Du coup, le corps, ben, il mourait à chaque fois que quelqu'un partait. Il n'y a que lui qui faisait circuler le sang, il n'y a que le pasteur. Et ça m'a frappée. Bon, aujourd'hui, ils viennent de recevoir un nouveau pasteur et c'est reparti. Samuel et Cathy ont décidé d'y aller pour les aider. Mais voilà, il faudra qu'un jour, dans cette église, il y ait des globules rouges et des globules blancs. On en parlera plus tard. C'est ça qui va donner la chaleur. L'église ne doit pas dépendre des qualités de ses dirigeants. C'est bien joli le temps que ça dure, mais après, ce sont ces dons cachés qui font vivre l'église. Ce n'est pas le pasteur, vous ne faites pas d'illusions. Le pasteur, il donne une vision, il donne un élan. C'est pour ça qu'on disait que la nouvelle vision, ça va donner un élan. C'est important. Mais la vie, la chaleur, c'est les gens qui le donnent. Et l'Église ne doit pas dépendre des qualités de ses dirigeants. C'est le corps local de Christ. C'est la vie de Christ qui l'anime. Et c'est ministère caché qui assure sa vitalité. Alors, je sais que beaucoup de chrétiens en France admirent, je donnais encore un exemple, hein, tant pis, admirent l'Église de M. Peter Schmitt à Mulhouse. Et il y a bien sûr le charisme visible du papa Peter Schmitt qu'on connaît et de son fils Samuel. Vous savez que Samuel est venu prêcher ici il y a tout un week-end, il y a... Ouh là là, 25 ans, merci. Oh, il y a des gens qui tiennent bien les chiffres. Et on s'est beaucoup amusé avec lui, il est absolument super. Mais il ne faut pas oublier que leur ministère est aussi le fruit de grandes souffrances. Et je vous conseille de lire son livre. Dieu ouvrit une porte, je crois, quelque chose comme ça. Beaucoup de souffrances. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient un ministère aussi profond. Mais quand je vais dans cette église, j'y suis allée plusieurs fois, je suis frappée par les ministères qui ne sont pas visibles. Bien sûr, papa Peter Schmitt et Samuel, on les apprécie, mais les ministères pas visibles. Tous ces gens, et franchement il y en a beaucoup, qui sont dans un service sacrificiel en temps et en énergie. Vous imaginez pas. La priorité qu'ils mettent sur leur travail dans l'église. Alors bien sûr, André m'a dit, ce sont des Alsaciens, des Suisses et des Allemands. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont un grand sens du devoir et de l'aide et du service. C'est vrai, il faut reconnaître. Ils ont beaucoup de défauts, les Alsaciens, mais bon... Voilà. Et je peux vous dire une chose, c'est que s'il ne s'agit que de prestations de service, quand les Peter Schmitt ne seront plus là, l'Église s'éteindra. Si ce n'est qu'une prestation de service, mais comme je le crois... Ces ministères cachés sont le fruit d'une relation forte avec Jésus, d'une grande obéissance à Dieu, même quand ça les dérange. Moi, je trouve qu'ils sont incroyables, les gens là-bas. Et d'une priorité réelle donnée au Seigneur dans leur vie. Alors l'Église restera belle et vivante, même quand les Peter Schmitt ne seront plus là. Parce que ce qui fait la vie de l'Église, et ça, je vais vous le répéter, comme je sais que je me répète beaucoup, ma fille me le dit tout le temps, la vie de l'Église, elle est assurée par ses dons cachés. Il ne faut pas rêver. Alors, on va observer un peu de plus près ces fameux ministères cachés dont j'arrête pas de vous parler. C'est comme l'Arlésienne, vous les avez toujours pas vus. On va commencer par la face cachée des ministères visibles, parce que ça, ça existe aussi. Vous avez des ministères visibles. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous avez vu des esprits bien disposés ou pas? Alors, il y a les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants, les missionnaires, les évangélistes. Évidemment, ils sont visibles dans l'Église, mais il n'y a pas que ça. Quand on est enfant, d'ailleurs, moi je le pensais, on pense que c'est le seul moyen de servir Dieu. Quand j'étais petite, bah, tu veux servir Dieu, il faut être pasteur, évangéliste. Bah, alors je me disais aussi, bah, pour les femmes, c'est foutu. Bon, à part monitrice d'école du dimanche, voilà, et la chorale, mais comme je chante faux, c'est pas possible. Voilà, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on pense quand on est enfant, parce que bah, on voit le visible. Derrière la face visible, il y a tout un travail. Il y a l'écoute de Dieu, la lecture, la méditation de la Bible. L'écoute pour savoir dans quel sens on va aller. La souplesse aussi pour suivre l'inspiration du Saint-Esprit. Et cette souplesse, chaque fois que je prépare un message, je la demande à Dieu pour dire « Seigneur, ferme-moi la bouche s'il y a des choses que tu ne veux pas que je dise. » Parce que parfois on a envie de dire des choses, notre chair, elle est là. Hein. Et parfois le Seigneur me dit « Non, tu ne diras pas ça. » C'est bien, j'essaie de respecter. Cette face cachée, elle est indispensable. Elle est bien plus importante que la prédication qu'ils font. Les responsables de louange. Dommage, David n'est pas là, vous lui répéterez, j'espère. Avec leur belle voix, tout le monde les admire. Ils sont enviés. Quel est le jeune qui n'a pas envie de chanter pour Dieu, etc. Mais croyez-moi, sans écoute de Dieu, sans prière, sans préparation, sans souplesse face à l'Esprit de Dieu, ils courent aussi le risque d'être, comme le dit 1 Corinthiens 13, un airain qui résonne. Ça ne suffit pas ce qui se voit. La meilleure voix, le meilleur jeu de piano, et on est gâté avec Marielle, c'est vrai, mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas les ministères cachés derrière, le ministère auprès de Dieu. Même chose pour celui qui préside. S'il veut rester au diapason du Saint-Esprit, en harmonie avec les autres, il faut qu'il ait une réelle relation avec le Seigneur. Ces choses cachées, ce sont celles-là qui font vivre l'Église. La face cachée de ces ministères visibles, c'est ça qui va faire toute la différence entre ce que je dis souvent, une prestation de service et un service vraiment inspiré. Certains ministères sont moins impressionnants peut-être, mais on les considère toujours comme cachés, mais moi je dis non, ils ne sont pas cachés. Les gens qui font la décoration de l'église, l'entretien, la cuisine. Oh, mais non, ce n'est pas des ministères cachés, ça se voit. Hein, quand Isabelle avec son équipe a passé, on le voit. On oublie quelquefois de remercier d'ailleurs. Hein, voilà. Mais ça se voit. Hein, et moi je m'en veux parfois parce que je regarde les bouquets aussi que font Marie-France et Sylvie, je crois, et je me dis, oh qu'est-ce que c'est chouette, c'est chouette. Puis j'oublie de leur dire, donc je le dis aujourd'hui. Non, c'est pas si caché que ça, parce que ça se voit. Le problème c'est qu'ils travaillent quand personne n'est là, mais le résultat est visible, et le résultat il porte aussi un message. C'est bien sûr du matériel, mais le message transmis dépend complètement de l'esprit dans lequel ça a été fait. Du travail de préparation, de réflexion pour la déco. Et il y a derrière un gros sacrifice de temps et d'énergie pour rendre les lieux jolis et accueillants. Et je pense, pour ces ministères, à ce verset qui dit « Tout ce que vous faites, et dit tout, pas seulement les choses spirituelles, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et là, je pense à cette dame. Vous savez, autrefois, dans les églises et assemblées de Dieu, on avait des chaises en bois. Elles avaient des petits trous. D'ailleurs, quand j'étais petite, je m'amusais toujours à essayer de passer les choses dedans, en attendant que ça passe. Et les dames, parfois, elles les ciraient. Oh, ça sentait bon, la cire, quand on arrivait. C'était sympa. Et il y avait une dame qui... Bon, elle disait, je peux faire que ça dans l'église. C'était une dame âgée. Elle ne voyait pas d'autres ministères possibles, d'autres services. Et alors, elle a stické les chaises, mais elle avait une autre astuce. Parce que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et donc, elle priait quand elle faisait chaque chaise. Seigneur, bénis la personne qui va être assise sur cette chaise à la réunion ce soir. Qu'elle soit consolée si elle est triste, etc. etc. Et elle priait pour la personne. Ça, c'est génial. Comment un service purement matériel, apparemment, peut devenir extrêmement spirituel. C'est important. Et je sais que dans notre église, ah Marie-France, je vais la faire un petit peu enrager, ça fait partie de mes plaisirs, j'aime bien faire enrager Marie-France. Et je me souviens d'une session de jeûne où Marie-France avait fait des tartes. Ou des quiches, je me souviens plus, des salés ou sucrés, mais elle nous a répété, elle est un peu comme moi, elle se répète aussi, et elle nous a répété, je ne sais pas combien de fois, mais je les ai faites avec amour. Et c'est resté pendant toute la session, c'est resté un petit peu comme un leitmotiv dans la session, mais je l'ai fait avec amour. Mais c'est resté, tu vois, je m'en suis souvenue parce que c'était important. C'était important pour elle. Elle ne l'avait pas fait parce que il faut faire un truc pour la session de jeûne. Mais elle l'avait fait avec amour, pour faire plaisir aux jeunes, pour etc. Et ça, c'est important. Même si ça nous a fait rire, même si on l'a mis un peu en boîte avec ça. Mais au fond, on a pensé, c'est ça, quand on sert le Seigneur. Si on le fait avec amour, ça passe tellement mieux. Je pense aussi à tonton Daniel, puisqu'il est là, hein, quand il nous faisait les décors. On était tellement contents. Ah ouais, je vois tout le monde. Et oui, parce que c'était fait avec amour aussi. Il le faisait, pas en rouspétant. J'ai jamais entendu d'ailleurs tonton Daniel rouspéter en faisant quelque chose. Ça, j'admire. Parce que moi, je rouspète facilement. Mais il le faisait avec cœur. Et le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit. Et puis je sais que les dames ici aussi, je crois avoir entendu dire hein, qu'après le ménage, elles ont un temps de prière. C'est important. C'est important. Alors, on va terminer, parce que je ne veux pas vous retenir plus longtemps. On terminera la semaine prochaine. Il y a aussi des ministères et des dons cachés, dans le sens, ils ne sont pas révélés. Parce que ça peut avoir plusieurs sens, cachés. Hein. J'y ai pensé après coup, quelqu'un m'en a parlé. C'est-à-dire que la personne ignore quel don elle a. Ou alors elle ne veut pas le voir. Ça, c'est un autre problème. Soit parce que ce n'est pas le don qu'elle veut, soit parce qu'elle a peur de l'exercer. Elle se sent inférieure, ou au contraire, au-dessus de ça. Peur de l'orgueil, ou au contraire, peur de se sentir diminuée. Tout ça, ça peut bloquer les dons. Et ils restent cachés. Ça, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine, en parlant de Joseph, Moïse, Aaron, Samson, Gédéon, qui avaient tous des problèmes avec leurs dons. Vous voyez, on n'est pas les seuls. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Si dans l'Église, il y a beaucoup de dons cachés qui sont pratiqués discrètement, dans l'humilité, dans le silence, et qui font la vie de notre Église. Je vous le répète, c'est ça la vie de l'Église, le sang qui circule. Et même les choses matérielles, ça fait circuler le sang. Attention, ne l'oublions jamais, même si personne ne le sait, si personne ne le voit. Vous savez, je crois que ce que ma sœur fait, il y a très peu de gens qui le savent. Mais le nombre de gens qui ont été bénis et qu'elle retrouvera au ciel, ça vaut de l'or. Donc, ne vous découragez pas si vos dons ne sont pas reconnus, s'ils ne sont pas vus. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça va se voir. Mais j'en connais beaucoup qui font des choses discrètement. J'en parlerai la semaine prochaine. Et qui continuent, qui soient bénis par leurs paroles de Dieu. Certains ont des rêves, certains ont des révélations de Dieu qui partagent, qui bénissent des gens. Juste, simplement, si vous avez vous ne savez pas quel est votre don, et vous dites un peu comme mon père, moi je suis un petit chrétien. Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'ambassadeur ? Dans votre vie familiale, dans votre vie civile, dans votre vie d'église. Et puis, allez-y. Peut-être Dieu vous demande d'exercer certaines choses. Mais priez, priez avant que Dieu vous révèle. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est quelquefois le problème. Je me souviendrai toujours d'un chrétien très chouette qui était génial avec les jeunes. Mais génial. Maintenant, il voulait faire autre chose. Et toute sa vie, il a fait autre chose. Il a bien raté sa vie d'ailleurs, à tous les niveaux, même familial. C'est dommage. Alors soyons pas comme ça. Acceptons les dons que Dieu nous a donnés. Acceptons-les. On en reparlera la semaine prochaine. Acceptons-les et allons-y. Comme disait papa, moi je peux juste conduire les gens avec ma deux chevaux. Je ferai plein de tours de deux chevaux au ciel. Parce que ça, les gens lui disaient, oh frère, ça sera rendu au centuple. Je vais en faire des tours de deux chevaux au ciel. Ça vous sera rendu au centuple. Mais bon, faites déjà ce que vous avez sous la main. Vous savez, je pense à ce verset, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si on le fait pour le Seigneur, avec un esprit bien disposé, on sera une bénédiction et on fera circuler le sang dans le corps. Ça, on va le développer la semaine prochaine. Seigneur, merci pour les ministères cachés de notre Église. Je sais qu'ils sont nombreux et qu'ils assurent cet accueil, cette chaleur qu'on ressent dans l'Église. Ces moments de prière aussi pour les uns, pour les autres. Je vois, Seigneur, tous ces globules rouges et ces globules blancs qui circulent et qui assurent la vie et la chaleur du corps, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, que l'équipe soit géniale ou qu'elle ne le soit pas. Mais Seigneur, tu fais circuler ce sang dans le corps local ici à Aubergenville et je t'en remercie. Et je te prie que tous ceux qui ne sont pas encore rentrés peut-être là-dedans, qui n'osent pas, tu leur parles cette semaine pour qu'ils fassent ce que leurs mains trouvent à faire et qu'ils travaillent dans cet esprit bien disposé dont on a parlé ce matin. Et que ton nom soit glorifié, que tu sois content, Seigneur, de tes ambassadeurs, que tu te réjouisses de voir leur service et leur loyauté, que tu sois réjoui, malgré tous nos défauts, malgré toutes nos limites. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vraiment que tu sois content de tes ambassadeurs. Amen.